Donc Alexis est doctorant contractuel à l'Université de Rouen via un contrat ENS Lyon et également en co-tutelle avec l'Université de Heidelberg en Allemagne avec Thomas Fuchs donc depuis cette année. Donc très content que cette co-tutelle ait pu se mettre en place, Alexis. Donc son travail de thèse, je vais lui laisser le présenter pour me substituer à toi. Donc je te cède la parole tout de suite.
Merci beaucoup Nathalie, merci à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, super. Alors, bah, je commence tout d'abord à nouveau par te remercier Nathalie pour avoir organisé cette belle journée. On sait à quel point en tant que doctorant il peut être difficile d'avoir des retours sur son travail, notamment en raison de cette crise sanitaire. Et dans ce contexte, ces doctoriales de phénoménologie sont une occasion très précieuse pour mettre sur le papier ces idées. Et recueillir les avis des collègues. Donc, je remercie très vivement l'ensemble des participantes et des participants à cette journée, doctorantes et doctorants, postdocs, masterantes et masterants, et je me réjouis d'avance de répondre à vos questions et remarques. Alors, ma thèse porte sur la phénoménologie des émotions et de l'affectivité chez Edmond Husserl, donc le fondateur de la phénoménologie. Et pour la résumer d'une manière très générale, je cherche à démontrer qu'il existe chez ce dernier une doctrine cohérente et en fait assez systématique de la vie affective. Pour cette présentation, j'ai choisi cependant d'adopter un point de vue d'abord décentré par rapport à la philosophie de Husserl et de partir d'une problématique, disons, plus globale, plus générale sur l'affectivité. Il existe en effet, selon moi, une tension qui est inhérente à la philosophie des émotions. La plupart des philosophes contemporains des émotions reconnaissent que celles-ci, du moins certaines d'entre elles, sont intentionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont des vécus qui sont dirigés vers des objets. Bon, à première vue, cette position n'est pas absurde. Par exemple, j'ai bel et bien peur du chien, je me réjouis de la naissance de mon enfant, etc. Dans ces vécus, il semble donc indubitable que je vise un objet précis ou un état de choses déterminé. Et dans ce qui suit, je ne vais pas chercher à interroger, à remettre en question ou à critiquer ce postulat, mais plutôt à en tirer certaines conséquences qui me semblent problématiques ou délicates. En effet, il faut d'abord noter qu'il est clair que les émotions ne sont pas les seuls vécus intentionnels, puisque les perceptions, les jugements, mais aussi les souvenirs, etc., le sont également. Et il semble même assez patent que cette intentionnalité cognitive que ces différents vécus manifestent fait figure de paradigme. Le concept d'intentionnalité est en quelque sorte taillé sur mesure, si l'on veut, pour eux, dont la directionnalité objectale, si l'on veut, paraît indubitable. Et cette situation pose un problème majeur, car il semble dès lors que qualifier d'intentionnel les expériences affectives, ce serait au fond les rabattre sur les vécus cognitifs, et de ce fait leur ôter leur originalité. La thèse donc d'une intentionnalité des émotions doit nécessairement donc s'accompagner de la mise au jour de sa spécificité vis-à-vis de l'intentionnalité canonique, cognitive, pour ne pas courir le risque qu'on pourrait appeler un réductionnisme intellectualiste. Pour ce faire, deux solutions s'offrent à nous. On peut tout d'abord faire résider l'originalité de l'intentionnalité des émotions dans leur objet. Par exemple, on dira que là où la perception et la connaissance scientifique pourront me faire connaître toutes les caractéristiques d'un orage, les types de nuages qui s'y forment, les causes de l'apparition d'un arc électrique en son sein, etc., l'émotion sera seule capable de me faire apprécier sa beauté ou sa sublimité. À partir de cette idée, on affirmera donc que l'émotion a un objet spécifique, qui est précisément la valeur. Pour le dire en gros, les vécus cognitifs font connaître les simples choses, les simples faits qui sont neutres axiologiquement, tandis que les vécus émotionnels font paraître les qualités axiologiques de ces choses et de ces faits. La seconde solution, toute différente, consiste à localiser la spécificité de l'intentionnalité affective, non plus dans l'objet, comme c'était le cas dans solution, mais dans l'attitude du sujet vis-à-vis de l'objet vers lequel il se dirige. Cette solution part de l'idée que l'on peut précisément se rapporter au même objet de plusieurs manières. Et notons-le, cela a déjà lieu en fait d'un point de vue strictement cognitif. Par exemple, je peux croire qu'il existe de l'eau sur Mars ou bien au contraire rejeter cette thèse. Et dans les deux cas, c'est le même objet ou état de choses qui est visé, à ceci près que dans la croyance, je l'accepte et dans le rejet, je le refuse. Il en irait au fond de même dans l'émotion. Avoir peur du chien, cela ne signifierait pas d'abord lui conférer un prédicat de valeur, ni percevoir en lui une qualité axiologique, mais à l'inverse, ce serait adopter une attitude affective à son égard, ce serait être tourné vers lui de manière effrayée, si l'on veut. Cette tension entre ce qu'on pourrait appeler une position objectale ou axiologique et une position attitudinale traverse la philosophie contemporaine des émotions. On la retrouve notamment dans le débat qui oppose d'un côté Christine Tapolet et de l'autre Julien Deona et Fabrice Terroni. Pour résumer très rapidement les grandes lignes de ce débat, Tapolet, dans son ouvrage « Émotions et valeurs » qui a été publié en 2000, considère les émotions comme des perceptions de valeur. Elles fonctionnent donc comme des perceptions au sens habituel du terme, notamment les perceptions de couleur, à ceci près que, précisément, elles visent des valeurs. À l'inverse, Deona et Terroni refusent une telle approche. Et ils insistent en particulier, notamment dans leur article de 2015 intitulé « Emotions as Attitudes », sur le fait que cette approche implique une intellectualisation de l'émotion et donc la disparition de ce que j'appellerais, pour ma part, la teneur affective de l'émotion. Ce qui fait précisément qu'une émotion est toujours, comme son nom l'indique, un transport, une agitation ou un mouvement de l'âme. Pour Deona et Terroni, ce serait au contraire l'attitude que nous adoptons face à un certain objet qui différencierait l'émotion de la cognition, et en aucun cas la particularité de ce contenu lui-même. Cette position qu'on peut qualifier d'attitudinale semble être phénoménologiquement, notons-le, plus correcte. Précisément compte de la spécificité de, disons, l'état d'âme affectif, qui ne soit à la saisie, au fond toute intellectuelle, des prédicats de valeur. Cependant, d'un autre côté, cette conception semble rendre délicate, sinon impossible, la compréhension de notre rapport aux valeurs. Si les émotions ne nous font connaître aucun objet propre, d'où vient notre savoir des valeurs ? Quel type de vécu intentionnel pourrait être à même, si ce n'est l'émotion, de nous fournir un accès aux valeurs? Il y a donc là, selon moi, une véritable tension. La position objectale ou axiologique gagne les valeurs, mais perd, si l'on veut, le sensibilité. À l'inverse, la position attitudinale gagne la phénoménologie originale du vivre émotionnel, mais elle perd les valeurs. Que faire donc dans les circonstances? Eh bien, tout simplement, il va s'agir de retourner à Husserl. Car Husserl, en vérité, faisait déjà lui-même face, dans un contexte certes qui lui était propre, au même dilemme. Je vais rapidement tenter d'en résumer les principales articulations et les principales lignes de ce contexte. Pour ce faire, il faut commencer par rappeler les deux enjeux structurants de la phénoménologie husserlienne de l'affectivité. Ces deux enjeux recoupent en fait la distinction forgée par Husserl lui-même, qui est bien connue, entre la phénoménologie comme psychologie pure d'un côté et la phénoménologie comme philosophie transcendantale de l'autre. Commençons par la psychologie pure que Husserl développe dans la deuxième moitié des années 20, dans une série de cours et de conférences et d'articles, notamment dans son cours du semestre d'été 1925 intitulé « Psychologie phénoménologique », dans l'article « Phénoménologie » rédigé pour l'Encyclopédia Britannica en 1927, ou encore dans les conférences d'Amsterdam de 1928. Husserl conçoit, pour le résumer en quelques mots, la psychologie pure comme une refonte de la psychologie descriptive empirique de Brentano, dans laquelle ce qui est recherché, ce ne sont plus des lois inductives, mais l'essence de l'âme, c'est-à-dire les nécessités eidétiques qui structurent et qui gouvernent toute psyché. Comment, de ce point de vue, la psychologie pure appréhende-t-elle l'affectivité? Eh bien, il va s'agir en fait pour elle, conformément au fond à sa méthodologie, il va s'agir de dégager l'essence donc de l'affectivité. de mettre au jour ce qu'on pourrait appeler l'eidos émotion, c'est-à-dire de décrire l'unité eidétique de cette classe de vécu, et de montrer en particulier que cette unité ne repose pas sur un simple amalgame fortuit ou sur de vagues ressemblances contingentes entre certains vécus, mais que cette unité revêt au contraire donc un caractère eidétique, un caractère d'essence. Cette tâche implique bien sûr négativement de démarquer la classe des actes affectifs des autres types d'actes mentaux, des perceptions, des jugements, etc. Comment Husserl parvient-il à effectuer cette démarcation? La première réponse, qui est celle des recherches logiques, qui est ensuite reprise dans de nombreux textes datant précisément de cette période de la psychologie pure, donc de la deuxième moitié des années 20, notamment entre 25 et 28, sa première réponse consiste donc à embrasser la position que nous avons qualifiée d'attitudinale, que nous venons donc de décrire. Dans les recherches logiques en particulier, Husserl distingue au sein de chaque vécu intentionnel la matière de l'acte de sa qualité. La matière d'un acte est ce qui lui donne un rapport à un objet déterminé. Elle est ce en vertu de quoi le vécu vise ce chien, vise l'arbre, etc. A l'inverse, la qualité désigne la manière dont l'acte se rapporte à l'objet qui vient d'être présenté, si l'on veut, par la matière. Pour citer Husserl, on est ici dans la cinquième recherche logique, il existe des variétés spécifiques essentielles de la relation intentionnelle, ou en bref, de l'intention, qui constitue le caractère générique descriptif de l'acte. Le mode selon lequel une simple représentation d'un état de choses vise cet objet qui est le sien est différent du mode du jugement qui tient cet état de choses pour vrai ou pour faux. Tout autre est à son tour le mode de la supposition et du doute, le mode de l'espérance ou de la crainte, le mode de la satisfaction et du déplaisir, du désir et de la répugnance. Notons donc si l'on suit ce passage de Husserl, que chacune de ces attitudes peut avoir affaire au même objet, exactement le même. Dans la mesure où donc Husserl range le sentiment, comme on vient de le voir dans les recherches logiques, mais aussi dans les textes de la deuxième moitié des années 20, du côté de la qualité et non de la matière, l'affectivité, de ce point de vue, n'apporte rien de neuf à l'objet, puisque la même objectivité apparaît dans les autres attitudes que je peux adopter à son égard. Alors, cette solution qualitative ou attitudinale au problème de la démarcation entre émotion et cognition aurait pu être suffisante, au fond, si la phénoménologie, précisément, se réduisait à la psychologie pure. Or, ce n'est pas le cas. Et au contraire, la psychologie pure demeure dans l'attitude naturelle. Et elle n'effectue pas la réduction transcendantale. Elle est certes, bien sûr, une science eidétique, on a insisté sur ce point, mais elle demeure encore, on va dire positive. Elle continue de considérer la conscience comme une simple région de l'être. A l'inverse, la phénoménologie transcendantale, parce qu'elle reconduit chaque objet à ses modes de donation et aux prestations subjectives qui les sous-tendent, supprime la positivité du vécu. Le vécu n'est plus dans le monde, la conscience n'est plus une simple partie ou région du monde, mais elle en est, au contraire, l'origine phénoménologique, la source où toute les autres régions puisent leur sens. Et, c'est là un point fondamental, c'est à cette phénoménologie proprement transcendantale que revient la tâche insigne d'être, je cite, « la science universelle absolue ». C'est-à-dire que c'est à elle de prendre en charge, je cite encore, « toute connaissance véritable et de résoudre tous les problèmes de la raison ». Cette idée d'une raison universelle a des conséquences massives pour la théorie de l'affectivité. Car pour Husserl, qui dit raison, dit connaissance. Et qui dit raison universelle, dit connaissance de toute chose. C'est-à-dire, non seulement, bien sûr, raison théorique, théorétique, de la nature et des idéalités, par exemple mathématiques, mais aussi raison axiologique, donc connaissance des valeurs, et raison pratique, connaissance des devoirs éthiques. Cet élargissement de la raison au-delà de la sphère de l'entendement ou de l'intellect emporte des exigences extrêmement fortes, car il signifie, en nous concentrant ici donc sur la raison axiologique, non seulement que les valeurs sont donc des objets qui peuvent être visés dans certains vécus intentionnels, mais en outre que ces valeurs peuvent être connues, c'est-à-dire qu'une vérité objective, universelle, indépendante de la particularité des sujets et des peuples, est possible à leur endroit. Alors, la question qu'on pose à ce point, c'est bien sûr la suivante. Quels sont les vécus intentionnels dans lesquels s'effectue la visée et, le cas échéant, l'évidence, donc la connaissance, des valeurs? Eh bien, c'est ici que les sentiments interviennent à nouveau. Comme on l'a déjà indiqué, il semble bien clair, et en fait, Husserl reprend ce raisonnement, que des actes strictement cognitifs ne sauraient faire apparaître quelque chose comme une valeur. C'est seulement dans l'élément de l'affectivité, si l'on veut, que se manifestent les qualités et les déterminations axiologiques. Et c'est précisément ce qu'affirme Husserl dans les Idiennes 1. C'est seulement l'émotion qui constitue la valeur. La valeur, c'est-à-dire une objectivité axiologique d'un type nouveau par rapport au simple monde des choses, un temps d'une nouvelle régime. On retrouve dès lors, formulé dans les termes de la phénoménologie husserlienne, le même dilemme dont nous avions souligné l'importance pour la philosophie contemporaine des émotions. Du point de vue de la psychologie pure, il semble, disons, plus efficace d'identifier la spécificité eidétique de l'affectivité comme mode, comme qualité. Mais alors, on perd les valeurs, qui sont pourtant essentielles au projet d'une raison véritablement universelle. Inversement, si l'on suit cette dernière perspective, on récupère les valeurs, et donc la possibilité d'un savoir axiologique, mais il semble bien qu'on perde l'originalité de l'expérience affective en tant que telle, puisque, au fond, l'émotion, ce ne serait qu'une saisie de valeur, et que donc tous les actes deviendraient objectivement cognitifs. Alors, dans la dernière partie de cette présentation, je vais essayer de vous proposer de manière concise une interprétation de Husserl qui, selon moi, permet de résoudre le conflit qui vient d'être mis au jour. J'aimerais en effet montrer que l'on peut définir l'affectivité d'une manière non objectale, tout en préservant la possibilité d'une connaissance axiologique. Alors, pour ce faire, il est nécessaire d'introduire d'abord un concept clé, qui est celui de sensation affective, Gefühlsempfindung en allemand. Pour Husserl, en effet, notons-le, tous les vécus, contrairement à la position brentanienne, tous les vécus ne sont pas intentionnels. Les sensations, par exemple le rouge purement senti, ou un son compris comme qualité purement immanente, sont bien vécus, mais ne sont pas dirigés vers un objet. Husserl souligne cependant que ces sensations jouent un rôle fondamental dans la perception objective, la perception en un seul mot ici, hein, puisqu'elles servent de soubassement ou de point d'appui aux appréhensions objectivantes. Pour le dire à nouveau avec les mots de la cinquième recherche logique, la perception, donc à nouveau la perception, hein, est pour nous ce surplus qui existe dans le vécu lui-même, dans son contenu descriptif, par opposition à l'existence brute de la sensation. C'est le caractère d'acte qui anime, pour ainsi dire, la sensation, et qui, selon son essence, fait en sorte que nous percevons tel ou tel objet, que, par exemple, cet arbre, nous entendons cette sonnerie, nous sentons le parfum de telle fleur, etc. Nous retrouvons, et c'est là un point fondamental, ce même schéma que l'on vient citer, ce schéma donc sensation-appréhension, si l'on veut, dans le cas des vécus affectifs. Husserl considère en effet qu'il existe, analogiquement aux sensations que l'on pourrait qualifier de sensorielles, donc les sensations de couleur, les sensations sonores, etc., qu'il existe donc des sensations affectives. Et celles-ci sont incarnées tout simplement par les sensations de plaisir, donc en allemand Lust, à ne pas confondre avec Gefallen, que je traduirais par agrément, donc par les sensations de plaisir, Lust, et de déplaisir, Unlust. Ces sensations qui, si elles peuvent bien être localisées dans ou sur le corps, ne visent pourtant intrinsèquement aucune objectivité. La douleur que j'éprouve ainsi dans le dos ou lors d'une migraine est bien vécue, mais elle ne donne lieu à aucune appréhension objectivante. Rien ne m'apparaît à travers elle. En revanche, comme pour les sensations sensorielles, ces sensations affectives peuvent également jouer le rôle de soubassement eidétique pour une interprétation objective. Comme Husserl le dit, toujours dans ce paragraphe 15 de la cinquième recherche logique, les sensations de plaisir, en raison de l'appréhension, en viennent à colorer l'objet lui-même. Lorsque je vois, par exemple, la personne aimée, non seulement je frissonne de plaisir, on est ici au niveau encore éthique, mais j'interprète ce plaisir comme si on venait de l'être aimé lui-même, et Husserl décrit cela en disant que l'être aimé apparaît comme nimbé de rose. À partir donc de ces précisions, je peux désormais avancer l'hypothèse qui sera celle que je défendrai dans ma thèse. J'affirme en effet que l'unité eidétique des actes affectifs ne provient essentiellement ni d'une attitude spéciale, ni d'un objet spécial, mais découle originairement de la présence, en leur sein, de sensations affectives. Pour le dire très simplement, prenons n'importe quel vécu intentionnel, celui-ci, comme on vient de le voir, est le résultat de l'application, si l'on veut, d'une appréhension sur un matériau eidétique, c'est-à-dire sur certains contenus de sensations. Si parmi ces contenus eidétiques, il se trouve des sensations affectives de plaisir ou de déplaisir, alors le vécu intentionnel est un acte affectif. Si au contraire, tous les vécus eidétiques à la base de cet acte sont des sensations sensorielles, alors nous avons affaire à un vécu purement cognitif. Cette hypothèse trouble de multiples confirmations dans les manuscrits de Husserl, notamment dans les textes qui ont été regroupés en 1927 par l'assistant de Husserl, Ludwig Landgraeber, sous le titre Studium sur Struktur des Bewusstseins, donc études sur la structure de la conscience, manuscrits qui viennent d'être publiés dans la série des Husserl-Lena et où se situent les analyses les plus poussées de la conscience affective dans l'œuvre de Husserl. Dans un texte daté du début du mois de septembre 1911, Husserl écrit: Une chose est hors de doute, dès lors que se trouve un agrément, on a ici Pifal, une attribution de valeur, une joie, il se trouve aussi des sentiments, et des sentiments qui appartiennent en tant que tels au même genre que les sentiments sensibles. Il apparaît donc que ces sentiments sensibles, qui sont la même chose que les sensations affectives, qui sont donc en eux-mêmes non intentionnels, sont la composante essentielle des émotions, de la joie, de l'agrément et de tous les autres vécus évaluatifs intérieurs. Cette composante qui permet d'identifier la spécificité de l'intentionnalité affective et de la démarquer de l'intentionnalité cognitive canonique. En outre, cette interprétation permet de comprendre comment les actes affectifs peuvent se rapporter à des valeurs. Comme le dit encore Husserl dans le même manuscrit, les sentiments appartiennent donc de manière essentielle à la composition de tous les actes évaluatifs, ici sentiments voulant dire sentiments sensibles, et d'abord dans lesquels des objets axiologiques en tant que tels apparaissent, sont donnés. De même que des sensations doivent être là, pardon, pour que des objets ontiques soient donnés, apparaissent d'abord. Les sensations vécues reçoivent une appréhension. Ici se trouve l'intentionnel au sens propre. Semblablement, pour qu'un agrément, une évaluation, en tant que Wert, Nemo, préhension de valeur, etc., puisse devenir vécu, les sentiments vécus reçoivent d'une manière ou d'une autre quelque chose comme une appréhension. Le parallèle avec les actes simplement perceptifs fonctionne donc encore. Lorsqu'un caractère d'acte prend en charge de pures et simples sensations sensorielles, ce qui apparaît, ce sont uniquement des déterminations ontiques, des qualités naturelles des choses, leur couleur, leur forme, leur masse, etc. En revanche, dès lors qu'il y a à la base l'appréhension des sensations affectives, l'appréhension est aussi une appréhension de valeur. La chose apparaît non seulement bleue, lourde, etc., mais également belle, au contraire repoussante, dégoûtante. On voit donc comment l'introduction des sensations affectives permet de résoudre le dilemme que nous avons exposé précédemment, qui opposait donc la conception attitudinale à la conception objectale ou axiologique des émotions. En vérité, selon moi, pour Husserl, ce qui fait en priorité l'originalité des actes affectifs, ce n'est ni leur objet intentionnel, ni le mode de relation à cet objet, mais leur soubassement eidétique. C'est lui qui, à la fois, rend compte de l'unité eidétique du genre affectif et en même temps de la spécificité de l'objectivité émotionnelle, c'est-à-dire donc de la belle. En conclusion, et j'ai dépassé un petit peu le temps qui m'était attribué, il apparaît ainsi non seulement que Husserl se positionne dans les débats contemporains de la philosophie des émotions, mais surtout qu'il propose et défend des thèses qui, à bien des égards, selon moi, permettent de résoudre les dilemmes et les écueils auxquels les théories actuelles de l'émotion sont confrontées. Je vous remercie de votre attention.
You are now unmuted. Merci. Il y a un petit écho, peut-être, je ne sais pas si, voilà, merci de couper pour l'instant, évidemment tu reprendras la parole ensuite, tout de suite. Hein. Merci pour ta présentation, Alexis, c'est toujours un plaisir de t'écouter et de bénéficier de la clarté de ton propos et de ta manière de construire vraiment une question. Je trouve que là, ça me permet aussi, c'est aussi l'occasion pour moi de t'accompagner plus précisément et de voir comment tu avances, comment tu avances dans tes hypothèses et dans la construction de ton travail de recherche. Je trouve que la mise en perspective avec le débat contemporain est vraiment éclairante et permet évidemment peut-être en dernière instance de donner à nouveau raison à Husserl. Alors, il ne va pas s'agir de faire du fétichisme, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a des différenciations dans les analyses husserliennes qu'on ne trouve peut-être pas de manière aussi fine dans les débats contemporains. Donc, je vois qu'Alexis est parti, je ne sais pas si. Bon, il va sans doute revenir. Donc voilà, donc merci beaucoup. Beaucoup de questions évidemment de mon côté, mais je ne voudrais pas prendre la parole et occuper l'espace d'échange éventuel entre vous. Donc si des questions émergent immédiatement, voilà, tu es à nouveau là en fait, hein, Alexis. Tu avais coupé, mais tu es là.
Oui, j'ai déconnecté, j'ai raté ce que tu as dit après.
Oui, bah quand tu es
Je
parti, j'ai rien dit d'intéressant. J'attendais que tu reviennes, donc tout va bien. Ne t'inquiète pas. De toute façon, c'est enregistré, tu pourras réécouter si tu le souhaites. Mais donc voilà, si des questions de votre part, donc aux uns et aux autres, sont déjà sur vos lèvres, je vous invite à échanger, à les poser. Voilà, si y en a pas tout de suite, je peux peut-être alimenter un tout petit peu l'échange avant que ça vienne, entre guillemets. Peut-être pour poser une question qui serait qui porterait pas sur la thèse que tu as développée à la toute fin, c'est-à-dire le mettant en avant ces notions de sensations affectives ou de sentiments sensibles qui sont des notions compliquées chez Husserl, enfin qui sont des mélanges en fait. C'est toujours un peu compliqué, on a de la mixité entre le sensoriel et l'affectif. Donc c'est un. Voilà, les terminologies husserliennes sont parfois un petit peu brouillantes, même si tu as bien montré quel était le socle à partir duquel tu travaillais, donc à travers ces notions-là, pour spécifier ce qu'on entend par affectivité chez Husserl. Mais la question que j'aurais, ce serait plutôt finalement sur les deux éléments qui me sont apparus comme peut-être un peu antinomiques ou en tout cas difficiles à concilier dans la dynamique. Entre ce que tu as évoqué au tout début concernant la valeur comme étant un objet de l'émotion. Donc la valeur, c'est l'objet de l'émotion. Ce qu'on peut aussi défendre chez Husserl, d'une certaine façon, si on met l'accent sur la propriété objective de la dimension émotionnelle. Et l'autre aspect où tu as fini à partir de la position transcendantale par l'idée que c'est l'émotion en fait qui constitue la valeur. Donc on pourrait y voir quelque chose d'un peu circulaire. Donc j'entends bien que ton idée c'est de montrer qu'il y a chez vous quelque chose de synthétique qui permet de dépasser cette distinction. Mais il me semble malgré tout qu'il y a une tension qui n'est pas forcément résolue chez Husserl entre cette dimension objective, disons. Où la valeur est d'une certaine manière ce qui est visé par l'acte émotionnel ou affectif, et d'autre part où c'est l'émotion, l'acte émotionnel, l'acte affectif qui est la source même de la mise en œuvre de la valeur. On a l'impression qu'on a finalement deux thèses là qui ne sont pas forcément conciliables si on les prend séparément. Et voilà, donc ce serait la question que je pourrais te poser, qui est un peu massive hein, évidemment, mais pour essayer de me comprendre à la fois ce que fait Husserl et comment toi tu te situes par rapport à cela.
Oui, effectivement, merci beaucoup Nathalie. C'est effectivement une question fondamentale et en fait on pourrait tout simplement la résumer en prenant l'exemple de l'œuf ou la poule.
Oui, c'est ça. Oui.
Parce qu'en bien des endroits, Husserl dit que finalement l'émotion, c'est une réaction affective à une saisie de valeur. Il utilise le terme d'ingabe, qui signifie une adonation. On a ce terme aussi dans certains textes religieux. C'est un abandon presque à la valeur, c'est-à-dire que je perçois une valeur, je perçois l'existence d'une valeur, et cela me met en joie notamment, ou alors je perçois l'existence d'une non-valeur, donc une inverse, une valeur négative, un acte de cruauté. Et dans ce cas-là, je m'adonne en quelque sorte à la tristesse. Donc là, dans ces textes-là, on a évidemment l'idée que l'émotion, c'est une réaction à une valeur qui lui préexiste. et donc que, évidemment, l'émotion ne fait que saisir et réagir à un objet qui est déjà présent. Et dans bien d'autres textes, on retrouve l'idée, comme tu as très bien dit, Nathalie, que, effectivement, l'émotion va être constituante pour la valeur. C'est-à-dire que c'est parce que, pour le dire rapidement, je suis ému, que une valeur m'apparaît. Et en fait, on retrouve toute cette problématique aussi dans la philosophie contemporaine des émotions. C'est tout simplement, au fond, la distinction entre un réalisme axiologique, pour lequel les valeurs préexistent à la connaissance qu'on en a, quelle que soit la manière dont on envisage cette connaissance, et même lorsqu'on dit que cette connaissance est impossible. Le réalisme axiologique qui pose donc l'indépendance des valeurs, et une conception, disons, relativiste ou subjectiviste des valeurs, pour laquelle une valeur, ce n'est rien d'autre que le sujet qui réagit effectivement à quelque chose, et donc c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir dire qu'il y a une valeur dans l'objet, et la valeur n'existe pas indépendamment de cette réaction affective-subjective. Et en fait, je pense que Husserl essaie effectivement d'articuler les deux pour une raison au fond très simple, c'est qu'il est à la fois, disons, le plus réaliste et en même temps le plus idéaliste. Et on retrouve en fait le même problème dans sa philosophie en général. L'idée d'un idéalisme transcendantal implique que toutes les objectivités, tous les objets que le sujet rencontre, c'est au fond le sujet qui les constitue. Le sujet ne trouve rien dans le monde qu'il n'ait pas, à travers ses sédimentations successives de sens, qu'il n'ait pas lui-même constitué. Tous les objets sont au fond le corrélat de ses propres actes, de ses propres prestations subjectives, de ses Leistungen. Et donc, au fond, le monde n'est que le corrélat de mes actes. Donc là, on a l'idée d'un idéalisme, évidemment, transcendantal, mais absolu. Et de l'autre côté, évidemment, Husserl, ce qui rebute au plus haut point, c'est l'idée d'un relativisme, d'un subjectivisme. Ce n'est pas parce que c'est le sujet qui constitue le monde que le monde est dépendant des uns ou des autres et qu'il n'y a plus de vérité. C'est tout l'inverse. Au contraire, il y a une recherche d'une vérité absolue. Et c'est cette idée de raison universelle qu'on retrouve dans tous les textes jusqu'à la crise, à partir des idéums, et dès le milieu en fait, des années 1900, jusqu'à la crise qui constitue le fil rouge de la phénoménologie husserlienne. Donc à chaque fois, il s'agit d'articuler au fond cet idéalisme qui est, si on se place d'un point de vue un peu hors de la phénoménologie qui semble apparaître comme un subjectivisme total, avec un rationalisme absolu. Donc, il y a cette tension. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette tension entre l'œuf ou la poule au niveau de la valeur, elle n'est pas vraiment propre à la valeur. Alors, elle est au fond une tension qui est inhérente au projet idéalisto-rationaliste, si on veut, de Husserl. Alors, dans ma thèse, moi, je vais essayer de montrer qu'effectivement, la valeur, elle constitue en quelque sorte le lieu où cette tension entre idéalisme et rationalisme, elle est la plus forte. Parce que la valeur, on voit vraiment bien ce que ça veut dire que c'est le sentiment qui constitue la valeur. Et ce que ça veut dire que précisément, c'est dans mes prestations subjectives, affectives, que quelque chose comme une valeur va exister, va émerger, va apparaître. Et donc là, je pense que vraiment, j'aimerais même montrer que d'une certaine manière, la considération de la valeur au cours des années 1900 a peut-être eu une influence historique sur l'émergence du tournant transcendantal, comme on dit, et que le statut ontologique de la valeur, finalement, va en quelque sorte contaminer le statut ontologique de tous les objets. Alors, pour essayer de rentrer un peu dans les détails, moi j'aimerais montrer que Husserl concilie les deux thèses. C'est-à-dire qu'à la fois, l'émotion est à l'origine de la valeur et en même temps, la valeur est à l'origine de l'émotion. Ce qui est premier génétiquement, et c'est là où il faut faire intervenir la phénoménologie, ce qui est premier génétiquement, c'est toujours l'émotion. Pour le dire très rapidement, en fait, il va y avoir une association originaire, et là, je me référerai au texte des synthèses passives notamment, il va y avoir une association originaire entre des sensations affectives et un objet empirique, sensoriel si on veut, qui est déjà donné. C'est ça qui va être l'expérience originaire à partir de laquelle l'objet va acquérir une valeur positive ou négative. Et cette association originaire, elle a lieu, elle est rendue possible par le fait que les sensations de plaisir et de déplaisir, le Lust et l'Unlust, elles sont irréductibles aux sensations sensibles, le bleu, ou les sons, etc. Donc là, on a une expérience originaire qui associe un plaisir ou un déplaisir à un objet qui est déjà constitué. Ça, c'est l'expérience de base. Simplement, ce qui va se passer, c'est que, comme pour toutes les associations originaires, y compris les associations sensorielles, il va y avoir la constitution d'un niveau de sens supplémentaire à partir de là. Et donc, ce qui est rendu possible à partir de ce niveau-là, c'est que en reconnaissant tout simplement l'objet empirique qu'on avait associé à l'expérience de plaisir ou de déplaisir, en simplement reconnaissant l'objet empirique, on va pouvoir l'évaluer. Donc là, on va avoir une évaluation qui suit donc cette expérience originaire de la valeur. Et c'est cette évaluation qui, elle, ne fait pas encore intervenir d'éléments affectifs. Donc c'est là où on va avoir une préhension de valeur, une Wertnehmung, comme dit Husserl, qui n'est pas affective. Et c'est là où on comprend l'autre côté de l'œuf ou la poule, comment la valeur peut précéder le sentiment. Parce que cette Wertnehmung qui n'est pas en elle-même affective, elle peut déboucher dans certains cas sur ce qu'on avait vu, une adonation à la valeur, etc. Donc pour prendre un exemple très simple, en fait, au départ, par exemple, je vois un violon, j'entends un violon jouer. Le violon me donne du plaisir. Donc là, il y a une association originaire entre le violon et le plaisir que j'éprouve. Ça, c'est l'expérience de base. Ensuite, je vais voir le violon à nouveau. Quand je vois le violon, je n'ai pas encore la sensation de plaisir. Mais parce que j'ai eu l'expérience précédente, un sens supplémentaire s'est constitué sur le violon. Et je ne vois pas simplement le violon comme objet matériel, mais je vois le violon comme doté de valeur. Parce que, précédemment, j'ai appris en quelque sorte qu'il était bon, parce qu'il m'avait donné du plaisir. Donc là, j'ai une préhension de valeur, Wertnehmung, qui n'est pas affective. Et seulement ensuite, je peux avoir une adonation à la valeur. Lorsque précisément le violon se met à jouer, et bien là, la présence de ce violon et le violon en acte, en quelque sorte, va me donner du plaisir. Donc dans ce cas-là, on a l'expérience affective qui suit l'appréhension de valeur. Et donc au départ, on a le sentiment qui précède la valeur, puis installation en quelque sorte de la valeur comme sens noémétique, et enfin, troisième temps, adonation à cette valeur dans un nouvel acte affectif. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, c'était un peu long, mais c'est effectivement une question massive, comme tu disais, Nathalie.
Oui, tout à fait. Je te remercie parce que du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment, dans ta réponse, tu es amené à tu es amené à faire ressortir une dynamique de la constitution affective et de la valeur, justement, dans leur je dirais dans leur enchaînement multidimensionnel, mais dans la temporalité. Donc tu as introduit le temps, tu as introduit la dynamique pour répondre, justement, et je pense que c'est. Voilà, moi ça me parle beaucoup et je pense que c'est comme ça que j'aurais aussi tendance à répondre à quelque chose qui sinon apparaît comme une contradiction ou une tension ou une opposition conceptuelle. Et je pense que le fait d'entrer dans une dynamique et de décrire des phases, comme tu viens de le faire, ça permet justement de se situer sur un terrain qui est plus seulement conceptuel, il l'est encore évidemment, mais qui est aussi proprement expérientiel, hein, c'est-à-dire qui restitue le parcours même, hein. C'était intéressant la façon dont tu as repris les choses. Enfin, en tout cas, pour moi, ça correspondrait vraiment à ce qui pourrait être dégagé de Husserl dans une perspective, disons, aussi novatrice, enfin, disons, et qui ne se contente pas simplement de poser une aporie ou de poser une circularité problématique, en fait, comme tu l'as reformulé sous la distinction de l'œuf et de la poule, enfin, qui évidemment nous enferme et nous paralyse à un certain niveau. Alors que si on le pense sur un plan dynamique et sur un plan temporel, justement, à ce moment-là, on restitue justement une expérience, en fait, qu'on peut bien sûr analyser, décrire et s'approprier aussi en la connaissant, mais qui prend l'expérience vraiment, comment dire, au sérieux, en fait, hein, qui résonne pas simplement de façon formelle. Donc je trouve que c'est très intéressant, hein, dans ta manière de répondre. Enfin, je trouve ça très convaincant en tout cas. Alors je vois qu'on a beaucoup dépassé déjà notre temps, mais peut-être voilà, prendre encore une question. J'ai vu qu'il y avait une référence qui était donnée à Alexis sur la question des valeurs, les typologies de philosophie que propose Raymond Rieu dans Philosophie des valeurs, chez Armand Collin. Hop, c'est toi Alex, hein, c'est ça. Très bien. Donc voilà, une proposition d'Alex pour toi Alexis.
Merci beaucoup. Merci pour ça.
Bon, s'il y a une question encore, ça peut se, s'imaginer immédiatement. Sinon, on va. Donc on est en retard, c'était prévisible. Mais on va quand même s'accorder une petite pause si vous voulez bien. On va pas enchaîner tout de suite. Et donc on va se décaler un tout petit peu. Donc je vous propose qu'on fasse une pause jusqu'à 11h. Il est 48, donc une douzaine de minutes. Et